à Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 si vous venez de vous brancher. C'est l'émission On en jase, votre émission du midi, les midi une exactement. Oh, on n'est pas gâté dehors, Pascal CV.
C'est pas beau, mais ça lave les voitures.
Exactement. Hey,
sérieux, j'essaie de trouver quelque chose de le fun parce que rendu au 14 mai, on a envie d'un peu de soleil.
C'est ça, c'est la journée de pluie, là. Je te dirais des prochains jours, c'est 11 degrés seulement, plusieurs averses aujourd'hui. Nappe de brouillard qui va se former en fin de nuit. Donc, ça va être comme ça pour la journée et la soirée, les amis. Et moi, mon Edou joue au foot dehors à soir à 8 heures. D'après moi, je vais avoir Fred sur le bord du terrain.
Oui, il va falloir s'habiller comme faut.
Sûrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vendredi, c'est alternance soleil et nuages à 17 degrés, 20 degrés pour samedi, 17 degrés pour dimanche. Mais là, on a rajouté peut-être un petit peu de pluie, là, 60 % de possibilité d'averse. Donc, ça va être à surveiller pour le long week-end. Mais bref, la journée maussade, la journée plate est aujourd'hui. Puis, ben, ça sera pas plate à soir au centre Vidéotron parce qu'il va y avoir pas mal de monde pour le match canadien. Ça, Pascal CV, tu vas y être.
Oui, c'est la joke de la semaine, je pense. C'est
Let's
la blague
go.
De moi, tu le sais que je cours après vivre des choses.
Ben oui, ça va être un événement.
C'est ça. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que je vais rire de A à Z. Je vais rire même dans le trafic parce qu'il va en avoir.
Ah,
là,
oui.
Faut être prêt.
Oui, partez tôt, honnêtement, parce qu'aux abords du centre Vidéotron, c'est pas les rues qui sont les mieux aménagées.
C'est
là.
Super difficile. Juste à Journey, dernière fois que j'ai été. Moi, j'habite proche, OK? Mm-hmm. Donc là, je me disais, je vais prendre un petit taxi.
Oui.
Ça va me coûter 5-6 $ mais j'aurai pas ma voiture. 35 minutes. Fait qu'à un moment donné, j'ai débarqué du taxi, puis je me suis mise à courir parce que le show commençait.
Ah non,
là.
Exactement.
C'est pas facile. Si vous êtes capable d'aller manger aux abords avant, d'aller se prendre une petite bouchée, un petit verre, puis de marcher, il fait pas beau, c'est pas grave, parapluie, quelque chose,
non, c'est ça.
Ça serait une belle idée.
Oui, Centre Vidéotron qui ouvre à compter de 17 heures. Le Blackstone ouvre à compter de 16 heures, donc vous pouvez faire votre réservation. Alors, allez-y avec ces petits trucs-là parce que ça va être bondé de partisans du Canadien ce soir. Qui l'aurait cru il y a 30 ans qu'à Québec, on encouragerait le Canadien de Montréal comme ça?
Puis qu'on allait en gang être dans un événement qui est le plus gros événement du Centre Vidéotron ou presque là, de la dernière année, juste pour être ensemble dans un établissement à crier en regardant un écran.
Oui, c'est ça.
On s'entend-tu? Il n'y a rien sur la glace.
Mais quel beau 12 $ bien investi pour trois organismes communautaires de Québec.
Magique.
Bravo à tout le monde qui va être au Centre Vidéotron ce soir. Honnêtement, c'est un bel événement. On va parler avec Alex Laramont. On va terminer l'émission avec lui pour se mettre l'eau à la bouche. Ça va être dans l'ambiance de ce cinquième match de cette série entre le Canadien et les Sabres de Buffalo. On est gâtés. On a du beau hockey au Québec et c'est très le fun. Puis, salutations à tous les bars sportifs, à toutes les cages au sport de ce monde qui, ce soir, vont regorger de partisans. Jeanne Québec, battez donc là, le record à cage au sport Le Bourgneuf. C'était 11 000 $ de bière.
Wow.
On aurait dû v'là deux semaines.
Wow! Moi, je sais qu'il y a des restos qui se sont... qui ont pris l'opportunité et le moment pour aller s'acheter des téléviseurs quand ils n'en ont pas habituellement.
Ben, c'est clair.
Juste pour offrir ça de plus à leur clientèle.
Ah, clairement, clairement. Donc, et
tout
voilà.
Tout le monde est hockey.
Ouais, tout le monde est hockey. Tout le monde est prêt pour ce match. D'ailleurs, 418-971-101. Vous l'écoutez où, le match du Canadien, ce soir? Moi, j'aurai pas le choix. Ça va être un petit peu ça slide avec mon cellulaire pendant que je regarde mon bel ado jouer au football. Ça va être ça.
C'est correct, hein? C'est la vie d'être
ça. Ça va être comme ça. Ouais, ben c'est ça. Puis il joue en défensive. Fait que quand l'offensive va être sur le terrain, je vais peut-être être un peu moins attentif au match.
Tu seras pas le seul, d'après moi.
Non. On devrait être une gang de pères et de mères qui vont se partager les meilleurs moments de ce match-là. Là, le meilleur ami Edou, Raph, lui, c'est un receveur de passe. Puis je suis bien aimé que son père, fait que comme ça, lui, il va regarder l'offensive. Moi, je vais regarder le Canadien. Puis moi, je vais regarder la défensive. Lui, il va regarder le Canadien. Patrice, on fait ça à soir, ça te dérange pas. Ça va être bien plaisant. Pascal, mis à part le Canadien de Montréal et cette pluie à l'extérieur, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité? Là? On va en parler avec Emmanuel Latraverse dans pas long, mais il y a une députée, Sona Lacoyenne-Olivier, qui s'est confondue en excuses.
Oui, elle a présenté ses excuses. Ça avait été annoncé hier qu'elle allait le faire, considérant qu'on a jugé qu'elle avait fait des manquements à l'éthique. Donc, l'ex-libérale qui n'a pas l'intention de démissionner de son poste. C'est ce qu'elle a dit en point de presse, mais elle était très émotive. Là.
Vraiment?
En larmes. Elle a eu la buée dans ses lunettes, puis c'est pas une façon de parler, c'est vrai. Donc, des excuses pour des manquements à l'éthique qu'elle a commis pendant la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Comme je vous disais, elle veut rester en politique, malgré qu'on l'ait exclue du caucus, ouais, malgré qu'on a dit non merci, mais merci. Elle était durement blâmée par la commissaire à l'éthique pour avoir utilisé des fonds publics pour des fins partisanes. Et ça, quand c'est une course à la chefferie, on ne le fait pas. C'est la députée de Chomedey et elle accepte les conclusions du rapport. On en reparle dans un instant avec Emmanuel Latraverse. Les Canadiens sont de plus en plus complotistes, Jeff. Donc, c'est le constat d'un nouveau rapport de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est Radio-Canada qui a eu une copie de ça. Grossièrement, c'est près d'un Canadien sur cinq qui est un adhérent convaincu de conspiration. C'est 7,2% de plus qu'il y a seulement 4 ans. C'est le taux d'indécis qui fait face aux théories du complot qui aussi grimper. Là, on n'est pas sûr, mais on regarde si jamais peut-être c'est possible ce complot-là. Ça, ça grossit.
Beaucoup chez les 18-34 ans que j'ai vu chez les hommes, ça, ça m'inquiète énormément. C'est un des sujets de Rémi Villemur dans sa chronique tout à l'heure.
Oui, on va en parler avec lui parce que l'augmentation de l'adhésion là, de ce complotisme-là, ça proviendra en bonne partie de l'érosion de la confiance envers les institutions, dont les médias traditionnels, les organisations internationales, les grandes entreprises, les gouvernements. On voit qu'il y a un genre de rassemblement de gens qui cherchent des réponses à plusieurs questions qui les impactent. Le premier ministre Mark Carney est en point de presse. On a l'intention du côté du Canada de doubler notre offre d'électricité et d'avoir de nouvelles mesures qui vont faire baisser le coût de l'énergie pour 7 ménages sur 10 d'ici 2050. Donc, à l'approche nationale pour une économie canadienne électrifiée, c'est ça qui a été présenté ce matin. Stratégie qui créerait 30 000 nouveaux emplois. Le gouvernement du Québec a déboursé 1,6 million de dollars pour des minuscules cabines insonorisées pour permettre aux fonctionnaires de passer des appels confidentiels.
Une cabine téléphonique, toi, chose.
Ça a fait réagir énormément aujourd'hui. Hein? C'est au moins 114 cabines insonorisées qui ont été achetées, selon les informations du Journal de Québec. On en reparle. Et le président chinois Xi Jinping a lancé une mise en garde à Donald Trump. Je regardais ce qui était le plus consulté aujourd'hui à l'international et c'était dans le top 3 des nouvelles, cette rencontre-là entre Donald Trump et Xi Jinping. C'est surtout concernant le dossier de Taïwan. On affirme qu'il y a une mauvaise gestion sur la question qui pourrait mener à un conflit, là, et on le souligne, entre les deux puissances.
Merci beaucoup, Pascal.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102. Disponible à tous les jours.
Tu viens de réaliser une entrevue avec M. Pelladeau qui le sera diffusée dans son intégralité.
Emmanuel Latraverse, là, je pense qu'il va y avoir de quoi.
Il y a peut-être un petit article de journal. Là.
Je vais te fermer ça
oui,
au
parce
plus
qu'on,
vite.
On veut entendre notre collaboratrice.
Exactement. Ah, et voilà. Emmanuel Latraverse, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et tu vas être là également demain. Emmanuel, je veux commencer en te faisant entendre Sona Lakoyenne-Olivier une partie de ses excuses qu'elle a fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Je crois sincèrement que tous les députés, peu importe leur formation ici, s'engage en politique avec le désir de servir la population et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est pourquoi je crois qu'il est important de continuer à renforcer la sensibilisation à la formation en matière d'éthique et de déontologie. Je prends acte de la décision de la commissaire, avec respect. Et j'accepte la sanction qui m'est imposée.
Emmanuel, on va se faire un petit « tout le monde en parle ». Est-ce que je suis trop dur avec la députée indépendante si je te dis « ouais, elle a bien beau pleurer, mais t'sais, des fois, on mérite ce qui nous arrive ».
Je pense pas qu'il est trop dur.
Non, OK. Merci, parce que là, dans ma bonté traditionnelle, j'avais comme un doute. Je me disais, ouais, comment ça je suis méchant de même aujourd'hui?
Est-ce que moi, je suis trop méchante de me dire ça semble être un peu du théâtre? Ce qui s'est passé ce matin?
J'irais pas jusque-là. Je pense qu'il y a comme... elle a définitivement frappé un mur à une très grande vitesse. Le problème, c'est que, tu sais, moi, dans ces situations-là, j'essaie de revenir aux faits, tu sais, comme ça, je trouve que ça aide à éclairer le débat. Madame Lakoyenne, Olivier dit, ce n'était pas mon intention d'aller à l'encontre des règles déontologiques. Mais le problème, c'est qu'il y a deux enjeux, là, qui font que le rapport de la commissaire à l'éthique est si dévastateur à l'égard de Mme Olivier. Le premier, c'est les faits en termes d'avoir utilisé son bureau de circonscription à des fins partisanes. OK? Tu organises un meeting une fois, tu peux dire ce n'était pas mon intention. Tu transformes ton bureau de comté en QG, en quartier général de campagne à la direction. Ta présidente d'association de comté a les clés. Tu forces tes travailleurs de circonscription payés par l'Assemblée nationale à faire du travail partisan, là, tu rentres comme dans une autre stratosphère.
Mais hein?
Alors, c'est ça qui rend que c'est un peu difficile de penser que ce n'était qu'une erreur de bonne foi. De deux, quand ce n'était pas mon intention d'aller à l'encontre des règles déontologiques, le rapport de la commissaire à l'éthique fait état du fait qu'elle a fait pression sur des témoins pour que leur témoignage accrédite sa version des faits à elle.
Elle a effacé des preuves aussi, me semble.
Elle a détruit des preuves.
Tabarouette.
Je veux dire, ça, là, t'as pas besoin d'avoir fait un cours de droit, là.
Non.
Savoir que tu peux pas faire ça, surtout quand la commissaire à l'éthique t'a dit de garder les preuves et de ne pas discuter de l'enquête avec des témoins potentiels.
OK, parce qu'en plus, tout ça est venu après une première communication avec la commissaire à l'éthique.
Une fois que la commissaire à l'éthique faisait une enquête, il fallait que cette enquête demeure confidentielle, qu'elle ne pouvait pas parler de l'enquête avec ses témoins, avec des témoins potentiels. C'est après ça qu'on lui reproche d'avoir tripoté toute sa messagerie WhatsApp pour changer les règles de confidentialité, d'avoir effacé des messages, d'avoir changé le nom du groupe, d'avoir enlevé des gens du groupe pour les empêcher, eux, de prendre des captures d'écran de certains messages, etc., etc., etc. Alors, à un moment donné, la bonne foi, là, parce que, tu sais, c'est un peu gros, là. Puis, dans toute sa logique, là, j'ai toujours cru de bonne foi que mes gestes ne dépassaient pas les normes éthiques. Mais je pense qu'on en a fait la démonstration, là, que, tu sais, elle s'est réveillée un peu tard, je pense, Mme Lacoyanne. Puis après ça, elle nous explique qu'elle a évolué dans sa compréhension des règles d'éthique et que ça lui a permis de réfléchir et de mieux comprendre les exigences liées aux règles parlementaires.
Ouais, ben là, tu sais, je te dirais que pas mal tous les députés, puis dans l'extrait, justement, elle parle de la formation à l'éthique, là. Je te dirais que pas mal tous les autres députés, les 124 autres, à part elle, avaient compris que si tu fais des gestes comme elle...
T'es pas devant quelqu'un qui a envoyé un courriel avec son courriel de l'Assemblée nationale une fois, là. On s'entend, là?
Non.
C'est une question d'échelle, là. Puis d'autant plus qu'elle collabore, elle en a la bonne foi. Son premier réflexe la semaine dernière, lorsque on a su que le rapport serait déposé cette journée-là, ça a été de présenter une motion à l'Assemblée nationale pour essayer de discréditer le travail et les méthodes d'enquête de la commissaire à l'éthique. Alors, on s'entend que c'est pas en cours d'enquête qu'elle a compris à quel point elle avait erré, là.
Mm-hmm.
C'est une fois qu'elle a vu l'ampleur du ressac, t'sais, on a comme l'impression que quelqu'un l'a assis sur une chaise puis lui a dit « Écoute, ma belle Sona, réveille, là. » Alors, je peux te dire que moi, j'étais pas dans l'Assemblée nationale, mais j'ai des collègues qui y étaient, puis il y avait quelques yeux qui regardaient en l'air, et le mot « malaise » est un euphémisme.
Pour décrire la chose. C'est un peu pour ça que je me questionnais sur l'aspect théâtral de ça, parce qu'à un moment donné, il y a tellement eu de refus de compréhension ou d'ignorance ou d'envie de faire comme s'il y avait de l'ignorance derrière ces actions-là, mm-hmm. ces comportements-là, quand tu es supposé être au courant, que tu sais, est-ce qu'on doit continuer avec quelqu'un qui est en politique en 2026, qui a eu des manquements, qui a réagi comme ça et qui ensuite, oui, demande pardon, mais quand même, on est-tu ailleurs?
On n'aura pas de pardon, là. Bon. Tu sais, je veux dire, dans les faits, parce qu'elle-même dit qu'elle accepte les conclusions de la commissaire à l'éthique. Donc, maintenant, il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale, parce que la commissaire à l'éthique fait des recommandations. Hein. C'est l'Assemblée nationale qui est souveraine. Alors maintenant, il va y avoir un vote à l'Assemblée nationale le 26 mai prochain. Puis pour que le rapport de la commissaire à l'éthique soit accepté, il faut qu'il y ait les deux tiers des députés qui votent pour. Madame Lacoyanne accepte les conclusions du rapport.
Fait que ça va être fait, alors, là, le vote, là.
Alors, ça va être fait. Elle sera blâmée, elle devra payer une amende, puis dans les faits, tu sais, on est quand même dans une démocratie, puis c'est aux électeurs d'avoir le dernier mot, donc les électeurs décideront s'ils lui pardonnent sa faute ou non, parce qu'elle a clairement indiqué qu'elle va terminer son mandat, et on s'entend, le Parti libéral a déjà dit qu'elle ne serait pas candidate pour le Parti libéral dans la circonscription de Chamédé, donc... Dans les faits, les carottes sont cuites. Je pense que son acte de contrition aujourd'hui visait à sauver la parcelle d'honneur qui lui reste potentiellement à sauver sur la place publique. T'sais, d'avoir au moins fait la bonne chose à la toute fin. Là.
En effet, tu as entièrement raison. Par texto 418-971-1021 et continuez à interagir. Là. C'est 100% de nos auditeurs, Emmanuel, qui disent « Ouais, il faudrait qu'elle démissionne, il faudrait qu'elle parte. » Parce qu'il n'y a personne vraiment là, qui croit à des erreurs de bonne foi. Là.
Ben c'est l'erreur de bonne foi à un moment donné, c'est que tu te ravises. Mettons là, que quand l'enquête a démarré, elle s'est rendue compte qu'elle avait erré. Elle aurait entièrement collaboré avec l'enquête. Elle n'aurait pas détruit des preuves. C'est là que ça pose problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cependant à quel point le Parti libéral du Québec a beau avoir coupé les ponts manu militari avec elle. Là, on s'entend, là, dans les heures qui ont suivi, on a maintenu son... On a annoncé qu'elle ne serait pas candidate. Le chef a mis en branle les procédures pour qu'elle soit définitivement exclue dorénavant du Parti libéral comme tel, etc. On va remettre sur pied une nouvelle association de comté. T'sais, on essaie de faire table rase, mais ce matin, c'était Michel Cetlacoui et Frédéric Beauchemin qui étaient en point de presse à l'Assemblée nationale, puis malaise aussi avec un grand M. Michel Cetlacoui était coprésident de la campagne à la direction de Pablo Rodriguez. Ouais. Là. Je veux dire, Pablo Rodriguez l'a remercié, Sona, pour l'efficacité dans la vente de cartes, etc. T'sais, question se pose à Mme Cetlacoui, vous n'avez pas posé de questions, puis elle a dit, écoutez, on présume de la bonne foi, puis je ne remets pas en doute la bonne foi de Mme Cetlacoui là-dedans, mais elle est prise avec ça, tu sais. Elle est comme tout le monde qui était dans un poste de leadership dans cette campagne à la direction-là, elle finit par être entachée, puis M. Beauchemin aussi, parce qu'à l'époque où M. Beauchemin était candidat à la direction du parti, avant d'appuyer M. Rodriguez, c'était qui la seule députée qui l'appuyait?
C'était elle.
C'était Sona Lacoyanne. Alors, à un moment donné, lui aussi, là, alors tout le monde rame dans la gravelle, puis je veux dire, ils sont comme pris avec les conséquences de cette affaire-là. Puis là, on n'a même pas encore eu les résultats de l'enquête du directeur général des élections qui mène pas une enquête, c'est pas totalement conjoint son enquête à lui avec celle de la commissaire à l'éthique, mais ce qu'elle a recueilli, lui peut s'en servir maintenant. Puis là, on ne rentre pas dans des petites amendes à 8 000 $ on rentre dans des sanctions pénales potentiellement. Puis est-ce que c'est là qu'on va avoir le fin fond de la réponse sur les brownies? Parce que Mme Mignolet, la commissaire, elle a enquêté sur le côté éthique. Elle n'a pas essayé de suivre la trace de l'argent, là.
Mais c'est ce que le directeur général des élections va faire, lui.
Ben, c'est ce que lui va faire parce que ce sont des dons illégaux, etc., etc. Puis là, après ça, il y a une autre couche qui est l'enquête de l'UPAC, où là, est-ce qu'on a de la fraude, etc., etc. Est-ce qu'il y a une promesse de fait? Donc, c'est comme un gros, 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 gros boulet là, qui est encore attaché, je pense, à la cheville là, du nouveau chef libéral, même si lui n'a rien à voir là-dedans. Je pense que tout le monde s'entend avec ça. Là.
Ouais, mais quand même, t'sais, hier, l'UPAC l'a rencontré. Fait que, ça continue à graviter tout ce financement illégal-là autour du Parti libéral.
Il y a une expression en anglais qui dit « waiting for the other shoe to drop », attendre que le deuxième soulier tombe. Là. Je vois pas, parce que je sais pas trop ce que... Mais donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'organisation du Parti libéral qui vont finir par être entraînés là-dedans, je pense que c'est la question que plusieurs se posent encore. Là.
Vraiment. Emmanuel Latraverse, je te fais écouter Martine Biron, ministre de la Condition féminine, sur nos ondes ce matin, lorsqu'on a parlé de cette nouvelle loi, la loi Gabi Renault.
Vous savez, les 10 féminicides qu'on a eus cette année, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée en fonction, c'est de vérifier si ces 10 femmes-là avaient utilisé les services à sa disposition. Et il n'y en a aucune qui avait frappé à la porte des maisons d'hébergement ou qui avait appelé SOS violence conjugale. Alors, ça veut dire qu'on en échappe encore.
Pour rappel, la loi Gabi-Renault va permettre aux femmes de vérifier le passé d'un nouveau conjoint, donc de voir si celui-ci a eu des accusations ou même des enquêtes pour violence conjugale à son actif, justement. Ça m'a marqué, Emmanuel, cette citation-là de Martine Biron ce matin sur nos ondes, à savoir qu'il y a 10 féminicides depuis le début de l'année, puis il n'y en a aucune qui avait fait des demandes d'aide. Ce qui fait en sorte que l'entourage devient vraiment le premier rempart très important. Et ce matin, j'ai adoré ta chronique parce que tu parles aux hommes, puis tu dis « Hey, les gars, surveillez donc vos chums de gars pour vous assurer que ça se passe pas. » Parce que il y a le rempart chez la femme. Ça, on en parle tout le temps. Hey, tu sais, puis là, je vais prendre un exemple fictif, là. Bon, Pascal, t'es victime de violence conjugale, je le vois. Hey, faudrait que tu sortes de là. Tu sais, il y a des ressources. Il y a ce premier rempart-là pour la femme. Mais le premier rempart avant tout, là, c'est un gars bien allumé qui va dire à son chum de gars, « Hey, ça n'a pas d'allure ce que tu fais là, slack tes nerfs. »
Oui, puis je vais te raconter une anecdote. C'est, tu sais, on reçoit du courrier, qu'on écrit des chroniques, mais ouais. À chaque fois que j'écris sur le problème du masculinisme, parce que c'est ça le fond.
Hein? Ben oui.
Il y a une époque où quand ces nébuleuses et ces chambres d'écho numérique n'existaient pas, c'était plus difficile pour les gars de dire « Ouais, ma femme, elle aime ça quand je la trompe, puis qu'elle est soumise, tu sais. » C'était plus gênant, mais là, maintenant, comme il y a ces chambres d'écho masculinistes qui existent, des influenceurs masculinistes, mm-hmm. etc., mais ça valide que c'est correct de penser comme
ça. En effet.
Et c'est beaucoup, beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus, mais le ressac que j'ai à chaque fois que je mentionne ça, c'est hallucinant, puis ça me convainc que c'est vrai. Il y a vraiment l'influence de ces chambres d'écho-là. Alors, c'est, tu sais, je voulais écrire une chronique sur le sujet de la violence contre les femmes, puis la loi Gabi-Renault, puis, mais sans faire la morale, tu sais.
Ouais.
Puis, dans le fond, c'est la job des parents, quand ils ont des garçons qui sont pris dans ce monde-là, puis dans ces chambres d'écho-là, puis qui pensent que la femme devrait être soumise et qu'elle devrait être au foyer puis fermer sa trappe. Mais c'est les gars aussi, avec leurs amis, leurs chums, leurs connaissances. Oui. Donc, tu sais, je voulais un peu lancer que... Puis c'est ce que illustre cette statistique absolument hallucinante de la ministre Biron. Moi, c'est la citation qui m'a le plus interpellée des points de presse hier. C'est ces femmes-là n'ont pas demandé d'aide. Alors, ça illustre à quel point l'enjeu de la violence conjugale est complexe.
Oui.
C'est compliqué. Ces femmes-là sont souvent immensément isolées, même quand dans les faits, elles ne le sont pas. Pour preuve, Gabi-Renault, sa famille a essayé de l'aider.
Eh oui, on a eu sa sœur Rachel en entrevue il y a de ça 2 semaines. Elle nous a expliqué à quel point elle est intervenue auprès de sa sœur, mais était tellement prise dans le giron de cet homme-là qu'elle retournait toujours à ses côtés.
Puis elle nous a demandé de ne pas la juger, sa sœur, parce qu'elle disait...
Mais non, mais c'est sûr, comme on peut pas... Mais alors, ça prend une loi, Gabi-Renault, parce qu'il y en a où c'est la femme qui va prendre le courage de checker. Tu sais, d'écouter une petite voix intérieure, là, notre instinct, notre sixième sens féminin. Puis il y a des cas où cette loi-là va permettre à une sœur aînée, par exemple, de dire, regarde, me donnes-tu la permission? Je sais que toi, tu n'es pas capable d'appeler. Me donnes-tu la permission de moi le faire? Tu sais? Puis ça, des fois, c'est juste la petite affaire. Alors, c'est tout un filet qu'il faut bâtir. Je pense que on peut pas reprocher à la CAQ de ne pas en avoir fait beaucoup sur ce front-là.
Ah non, hey, moi, les bracelets anti-rapprochement, là. Wow! Chapeau à la ministre Geneviève Guilbeault. Je trouve ça, c'est un leg exceptionnel qu'elle laisse pour notre société.
Même si c'est pas parfait, puis ça marche pas parfaitement,
pas
les
grave.
Tribunaux spécialisés, etc. Mais je pense qu'il faut continuer à avoir cette discussion sur le rôle des gars dans cette problématique-là, qui sont des alliés dont les femmes ont besoin, parce que la super grande majorité, je pense, de nos jours, des hommes qui nous entourent, sont pas comme ça. Et c'est sûr qu'ils envoient quelque part, tu sais.
Oui, tu as raison.
Il faut continuer à discuter de ça. Puis je pense qu'il faut que le mouvement des femmes continue à tendre la main aux hommes, puis trouver des façons dont les hommes peuvent nous aider, pas au niveau des femmes, à leur niveau, à eux. Parce qu'il y a des fenêtres que vous, les gars, vous êtes les seuls à avoir. Vous avez une voix qui est la vôtre, puis qui n'est pas la nôtre, puis qui, dans certaines circonstances, je pense, peut être beaucoup plus forte que la nôtre à l'égard d'hommes qui ont des sérieux problèmes dans leur relation avec les femmes.
Beaucoup plus forte et peut-être beaucoup plus écoutée aussi parfois par les hommes. Puis là-dedans, il y a un angle mort que des gens commencent à discuter en se disant « OK, mais là, on touche aux droits de la personne. » Ça, on va être capable de refermer rapidement là, la petite boîte, de dire « Ben non, là, à un moment donné, quand un homme a été violent, que ça a été, un fait, puis qu'on veut juste protéger une personne, on n'est plus dans les droits de la personne d'aller fouiller dans le passé de la dite personne. » L'affaire qui vient, c'est l'ostracisation de ces hommes-là en disant « OK, mais s'ils sont jamais capables de retourner en relation par des gestes du passé, on va-tu créer un genre de meute encore plus violente envers les femmes? On va-tu se diriger vers les incels? » On va... C'est comme l'angle mort qui est discuté en ce moment, que je me dis « Il me semble que c'est un autre cas, ça. C'est pas la même chose. »
C'est intéressant que le gouvernement... Parce que c'est vrai qu'il y a une atteinte à la vie privée avec ça, parce que c'est pas les cas de condamnation. Quand un dossier criminel, ça, c'est public. Hein? C'est dans le plumitif, au palais de justice, etc. Ce qu'une loi comme la loi Gaby-Renault fait, c'est que ça donne accès aux enquêtes policières.
Exactement.
Alors, est-ce que la personne a été sous enquête? Est-ce que le DPCP a eu un dossier et a décidé de ne pas porter plainte? Est-ce que la police est allée à la maison de son ex 250 000 fois? Donc, tout ça, c'est répertorié. Puis, c'est vrai qu'il y a une atteinte à la vie privée là-dedans, puis je pense que c'est, on ne peut pas le négliger. Ce que le gouvernement a essayé de faire, c'est que c'est pas, tu ne vas pas appeler puis dire, oui, à telle date, il est allé à telle place, à telle date, il a été à... Il va y avoir un intermédiaire, tu comprends-tu? Donc, il va y avoir des gens formés pour recevoir l'information et l'interpréter et n'en donner que ce qui est pertinent à la femme en question. Donc, déjà, ça crée un...
Ça crée un rempart.
Un rempart. Et ces femmes-là non plus ne peuvent pas utiliser cette information-là dans l'espace public. Donc, tu sors avec un gars, tu as comme un doute, tu demandes, tu fais non, puis là, tu apprends que oui, la police est allée chez lui 250 fois, puis que non, puis là, tu dis, OK, sais-tu, moi, je vais casser.
Je toucherai pas à ça.
Je ne vais pas aller sur Internet puis dire. Paul Jean-Jacques, qui est un salaud qui battait sa femme.
Oui, c'est ça, ça laisse une information personnelle.
Ça reste une information personnelle, ça reste une information confidentielle.
Oui, c'est le bon terme.
Le gouvernement a essayé de mettre des remparts justement pour s'assurer qu'on ne va pas cependant revictimiser des agresseurs passés non plus. Il ne faut pas comme empirer les choses déjà. Alors ça, je pense que c'est quand même pour réflexion là, un élément qui est important à suivre.
En effet, mais tu as entièrement raison. Les gars, parlons-nous entre nous. Puis Pascal a raison, parce que souvent, quand ça vient d'homme à homme, ben, on est capable de se parler dans le blanc des yeux puis de faire diminuer justement le feu qui brûle en dedans. Là.
Un frère ou une sœur sont des fois mieux entendus que des parents auprès d'un ado. Peut-être la même chose avec des hommes au potentiel violent voilà.
La violence envers les femmes, c'est une affaire de tous et c'est avant tout une affaire de gars parce que c'est les gars qui font cette violence envers les femmes. Donc, c'est à nous autres à se corriger.
Je veux dire une chose, par exemple.
Ouais.
Des hommes qui seraient aux prises avec une femme violente.
Oui.
Eux aussi pourront utiliser les mécanismes.
Ça, c'est super.
C'est super important.
Ça ne s'adresse pas seulement aux femmes.
Non, ça, c'est
vraiment
super.
Pour les relations intimes, eu égard au sexe, au genre ou à tout le reste. Là. Fait que c'est quand même important de le mentionner. Là.
C'est vraiment super. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup d'avoir participé au caucus aujourd'hui. On se parle demain. Salut.
Bye.
Emmanuel Latraverse dans le caucus. Elle sera avec nous à chaque vendredi. Aujourd'hui, elle était avec nous en remplacement d'Antonine Iaccarini. N'hésitez jamais, messieurs. Puis mesdames aussi, parce que ça existe, si vous voyez des comportements violents chez vos amis envers des femmes, envers leur conjointe, envers une blonde qui vient de se faire intervenir, cessez la violence immédiatement. Puis moi, en tant que parent, tantôt Emmanuel parlait de parents. Moi, en tant que parent, Elliot, quand il a commencé à avoir une relation plus sérieuse
ton
avec
fils,
sa blonde,
ouais.
mon fils de 18 ans, je me suis assis avec, il avait 17 ans à l'époque, puis j'ai dit, bon, mais parfait, comment on gère ça, une relation intime? Puis on a eu une bonne discussion ensemble.
Une relation amoureuse, pas juste sexuelle, là, tu
parles. Oui, en plein ça, une relation amoureuse, comment on gère ça, comment tu vois ça dans la relation, comment tu vois la place de la femme. On a vraiment eu cette discussion-là.
Avais-tu l'impression qu'il avait déjà discuté de ça auparavant avec des amis, à l'école?
Je sais qu'il en avait discuté de la façon qu'il m'a parlé, il en avait discuté avec sa mère, puis honnêtement, je salue Cynthia, là, qui est très, très, très bonne pour ce genre de dossier. Là, je vais le dire comme ça. Donc, très choyée, justement, qu'elle soit la mère de mes enfants. Mais oui, c'était une discussion avec ses chums de gars. Puis même, il y a un chum de gars qui traitait mal sa blonde et il a intervenu. Si tu savais comment j'étais fier de lui.
Hein?
Il est arrivé dans l'auto et il m'a dit ça. Il dit « Hey, c'est-tu quoi, un de mes chums, là? Ben là, il fait toujours la baboune à sa blonde puis il parle toujours sec. Il dit ça, paix, là. » De la communication violente, hein, j'ai dit, t'as entièrement raison.
C'est bon, c'est bon.
J'ai dit, hey, à pas d'allure de la façon dont tu parles à ta blonde, puis si tu te corriges pas, moi, je vais aller voir ta blonde pour y dire, t'as pas le droit d'accepter ça.
C'est capoté parce que j'ai connu des amis qui, deux chums de gars, là,
ouais.
de toujours, là, qui, il y en a un qui avait remarqué quelque chose chez l'autre, puis il avait dit, hey, on peut-tu aller déjeuner? Fait qu'il est allé déjeuner, puis l'autre a tellement mal réagi.
Ouais.
Que ça a comme créé un genre de friction dans l'amitié. Puis celui qui voulait en parler a pris peur, puis a dit hey, je pourrais plus jamais parler de ça avec mon chum de gars. Mais tu sais, c'était de l'amour pur, là.
Oui, oui.
C'est de l'amour pur pour la relation qu'il avait dans laquelle il était, pour la suite de sa vie et tout ça. Mais son ami a tellement eu peur de la réaction négative qu'il a dit hey, je veux pas perdre mon chum, j'irai plus jamais là. Ça aussi, ça peut arriver, là.
Ben
ça
oui.
aussi, ça peut arriver. Ça prend du courage de continuer. Ça prend du courage de dire ben au pire, je vais la perdre, l'amitié.
Ça peut arriver
certainement.
Je salue
tous les gars qui continuent puis qui essaient malgré tout ça.
Moi, je te dirais, j'ai deux événements en tête où ça m'est arrivé que ça a créé des froids.
OK. Ça s'est-tu
Ça s'est réglé avec le temps, mais il faut que tu sois patient après.
Toi, tu as décidé que tu assumais ce rôle-là. 100%.
Moi, je l'assume. Moi, je l'ai toujours assumé, ce rôle-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, tu sais, si je viens frapper ton ego. Ça me dérange pas.
Est-ce que tu ferais la même chose pour un de tes amis, par exemple, qui sortirait avec une femme, qui, elle, ferait de l'abus ou elle avec...
Ah oui, oui, je le sensibiliserais à dire, ouais. Hey, écoute, là, ça n'a pas de sens dans quelle situation
t'es
présentement dans ton couple.
Est-ce que
tu réalises?
Oui,
exactement. Je le ferais aussi. Oui, je le ferais aussi. Puis je pense que j'essaierais de parler aux amis de la blonde de mon chum aussi pour dire, hey, voici ce que je constate. Constatez-vous la même chose.
T'sais. On est sur la même ligne.
Oui, moi, je crois à ça, le dialogue. Je crois à ça. Qu'on se parle, qu'on dialogue, qu'on change les choses, tout le monde ensemble. Je crois vraiment à ça. Peut-être que je suis trop...
Non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça reste dans les plus grandes démonstrations d'amour.
Oui.
Quand ça vient difficile, quand il y a quelque chose de difficile puis que tu dis « je vais le faire quand même pour le bien-être des gens autour de toi », pour moi, c'est de l'amour pur.
Oui, exactement.
On outrepasse les genres de barrières, le malaise, le ci, le ça. Puis je pense qu'en business, c'est la même chose. Quand tu es capable d'avoir une transparence avec ton patron, avec des collègues, ben, les relations sont décuplées par la suite.
Clairement.
Mais il y en a qui sont mal à l'aise avec ça. Qui disent, oh, non, il faut garder un genre. Ben, je te dis pas, là. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais je pense qu'on se comprend en ce moment de la façon dont on parle.
Non, en plein ça, moi, puis honnêtement, quand je fais ce type d'intervention-là, tu sais, souvent je me dis OK, je vais venir frapper direct dans l'ego. Il va avoir des ressacs, mais je les assume. Parce que je me dis c'est la bonne affaire à
faire. Le bien-être, la sécurité, etc.
C'est ça, exactement.
On nous pose la question, est-ce qu'on fait l'inverse? Est-ce que les femmes interviennent quand leurs amis parlent à leur chum comme de la marde?
Ouais, faites-vous ça, les femmes? Toi, tu fais ça?
Moi, je le fais.
Je suis convaincu. Hein?
Puis surtout dans des discussions où je trouve que des fois ça vire trop rapidement que c'est la faute du gars.
Oui.
Tu sais, dans des discussions, je vois, hey, qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Est-ce que t'as-tu l'impression qu'il est à l'aise de te parler? Est-ce que t'as l'impression qu'il s'est refermé? Parce que il y a un livre que j'avais lu, là.
Ah,
les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est même mon père qui me l'avait fait lire dans le temps, parce que lui, ça avait changé beaucoup de choses dans sa vie. Il l'a lu super tard, dans la quarantaine. Puis ça peut paraître cliché. J'en avais parlé à Yannick aussi, il m'avait dit, hey, je l'ai lu, c'est super bon. Puis la dynamique est genrée parfois. On dira, regarde, puis même l'auteur dit, ça se peut que vous reconnaissiez plus dans la dynamique d'un homme ou d'une femme. Oui. Mais il y a toujours quelque chose en arrière. Puis à un moment donné, là, plus tu accumules les tensions, plus tu t'éloignes, tu te distances, moins tu te comprends. Mais quand il y a encore énormément d'affection, d'amour puis d'ouverture dans le canal de communication, les choses se disent beaucoup plus et beaucoup mieux. Puis tu prends moins personnel parce que ton lien d'attachement, ton affection...
Non, t'as raison.
Fait que souvent, ça, je vais en parler avec les filles.
Puis vois-tu, moi, c'est drôle parce que je me rends compte qu'en amitié et en amour, j'ai deux types de communication.
Oui.
OK? En amitié, on dirait que j'ai pas peur d'être celui qui va driver à patente. Tu sais, avoir, je fonce, puis avoir
j'suis,
mon homme...
Je suis pas surprise. Probablement que tu manques de tact des fois, on a tout le défaut de notre qualité.
Je manque de tact. Ça, là, écoute, t'as pas idée comment je manque de tact. T'as pas idée. Quand moi, je décide, on s'en va par là, c'est par là qu'on s'en va.
Je travaille aussi là-dessus.
C'est ça, exactement. T'as pas idée. Mais en amour, je me rends compte que, justement, compte tenu que je sais que des fois, je manque de tact, puis que je veux pas manquer de tact envers mon amoureuse, je suis plus difficile à m'évaporer, à prendre des distances.
Prendre un petit pas de recul.
À prendre un pas de recul. Puis là, c'est là qu'il faut que la personne qui partage ma vie dise « Hum, je te sens distant, que se passe-t-il? » Puis là, je vais être capable de bien l'exprimer.
Mais c'est parce que c'est dur quand ça vient émotif, quand ça vient sur le cœur, quand tu as l'impression qu'il y a un problème, quand tu as l'impression qu'il manque d'amour, d'affection, puis là, t'es comme... l'humain se referme un peu. Hein? On veut se protéger. C'est pas moi qui vais avoir l'air faible là-dedans. C'est pas moi qui va. Mais c'est là où les problèmes grandissent.
Ben, tu sais, je le dis, moi, je veux jamais être fâché après ma blonde parce que je l'aime.
Ouais. Tu veux son bien?
C'est ça. Fait que compte tenu, je veux pas être fâché après, en amour, je vais prendre un pas de recul puis je vais dire, OK, là, il faut que j'analyse la situation. Comment qu'on gère ça? Tandis qu'en amitié, c'est niaiseux. Je les adore, mes chums de gars. Mais on dirait que ça me dérange pas de me frapper direct dans leur ego. Tu sais, de dire, hey, toi, là, le grand cabochon, regarde-moi ce que tu viens de faire. Puis là, c'est ça. Puis papa. Puis là, des fois, je deviens moralisateur. Puis malheureusement, j'ai été comme ça avec mes gars aussi un bout. Mais je les ai adorés parce qu'ils ont été capables de me le verbaliser à l'adolescence.
De dire,
hey, père, on trouve que t'es trop moralisateur. On n'aime pas ça.
On préfère une discussion.
Ouais. Puis là, j'ai fait, non, mais le fun, les boys, ils m'amenaient ça.
Ouais, puis c'est
là, avec les
gars. Tu l'as reconnu.
Ouais, fait que là, avec les gars. Je suis plus dans une situation comme en amour où je vais prendre un pas de recul. Je vais analyser, je vais dire, OK, comment j'interviendrais bien. Puis là, des fois, je vais même, tu sais, laisser passer 48, 72 heures, dire, ouais.
Génial.
Mais ça me gosse, mais là, je serais pas capable de bien le dire. Puis là, whoop, à un moment donné, je vais réussir.
Pour moi, ce genre de conversation-là en société manque énormément.
Ouais.
Tout le monde a peur de faire mal à quelqu'un. Tout le monde a peur de paraître plus faible que l'autre. Tout le monde a peur. Dans un genre de chamaillage, dans un conflit ou quoi que ce soit, semblerait-il que le plus important, c'est la reconnexion. Si tu termines ton conflit, si tu termines ton imbroglio ou quoi que ce soit, dans une plus grande connexion que tu avais auparavant, c'est que tu as bien fait des choses.
Oui.
Ça devrait toujours être finalité. Tu as dit, hey, ça a été difficile. Qu'est-ce qu'on sort de ça? Qu'est-ce qu'on veut améliorer de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Puis tu es là de part et d'autre,
non,
on s'entend. Puis souvent... Ce que ça crée, c'est une plus grande intimité, une plus grande profondeur dans la relation.
Vraiment. Vraiment, vraiment, on en sort gagnant. De
donc,
se parler. De
super preuve d'amour.
De se parler, on en sort gagnant, Pascal Sévé. T'as bien raison. Bon, si on se fait trop taxer, par exemple, on en sort-tu gagnant?
Ish.
Parce que là...
Ça dépend comment tu utilises ces fonds-là.
Ouais, parce que là, c'est la course aux taxes.
Oui.
Du côté des maires et des mairesses du Québec. Puis regardons ça, on a Mathias Turcotte qui est allé, justement... à cette conférence de presse où on a parlé de taxes et de fiscalité municipale, puis qui va nous revenir avec les bonnes idées de nos décideurs.
Tabarnouche, il y a 3-4 livrets.
Ouais, c'est ça.
Un manuel.
Regarde-moi ça, c'est quasiment 11x17 sans couleur. Hé, attends une minute, là. Ils veulent nous taxer plus, mais ils font des documents en couleur.
Ouais, mais ça, c'est le bonbon, Mathias. Hein. Il étudie en finance, là. Fait que des affaires de même, là.
Qu'est-ce qui se passe, là?
Il y a autant ça que de la crème glacée.
OK, on va essayer de vous vulgariser ça le plus possible après la pause. Mais gare à vos poches, chers citoyens et citoyennes du Québec. Puis Pascal, on va faire quelques nouvelles. C'est ce qui suit immédiatement. On en jase sur Boulevard 102.